Maintenant, je vais vous présenter le conférencier de ce soir, André Tozzol, qui est né en 1941, qui est philosophe. Il est professeur de philosophie à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Pour son parcours, 1965, agrégation de philosophie, 1982, doctorat d'état de philosophie à l'université de Paris 1, de 1982 à 1988, vice-président de l'université de Nice, de 1988 à 1995, professeur de philosophie à l'université de Besançon, en 1995, professeur à l'université de Paris 1 Sorbonne, depuis 2002, membre du conseil de gestion de l'UFR, Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Pour sa spécialité, André Tozzol est spécialiste de philosophie politique. Il a travaillé sur Spinoza, Hegel, Kant, Vico, Marx et les philosophies marxistes. Ses travaux portent sur la rationalité moderne ainsi que sur les philosophies de la mondialisation. Pour ses publications, André Tozzol a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Marx et sa critique de la politique en collaboration avec César Luporini et Étienne Balibar, Paris 1979. Praxis, vers une refondation en philosophie marxiste, édition sociale, collection Terrain, Paris 1984. L'esprit de scission, études sur Marx, Gramsci-Lubac, presse universitaire franc-comtoise, 1991. Études sur Marx et Hegel, Quimet, 1998. Il est aussi membre de la Société française de philosophie et vice-président de la Société Hegel-Marx pour l'étude de la pensée dialectique et critique. Maintenant, je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public de 20 minutes. Merci.
Je voudrais remercier avant toute chose les organisateurs de l'Université de tous les savoirs et en particulier Yves Michaud de cette invitation qui me permettra de vous entretenir donc des philosophies de la mondialisation. Le pluriel s'expliquera de lui-même. Je partirai d'un constat simple et qui concerne avant tout les publications que l'on trouve en France. Ma conférence ayant un but essentiellement informatif et un petit peu classificatoire. Il est bien évident que l'économie politique, sous ses diverses versions et particulièrement néolibérale, a donné le là. C'est elle qui a accrédité pour la première fois le terme de mondialisation, hésitant aussi sur le terme de globalisation anglo-saxon. Il s'agissait de désigner là le changement donc, dans l'économie mondiale, industrielle, par lesquels les flux de capitaux, les investissements, les réseaux de télécommunications ont serré le monde, le globe terrestre, en l'unifiant dans divers réseaux. D'autre part aussi, n'ont pas été en reste pour étudier les aspects de la dite mondialisation, les sciences sociales, en particulier les sciences sociales et politiques, qui a publié et qui publie toujours une immense série de travaux contradictoires sur l'économie politique, mais dominés jusqu'à présent par le néolibéralisme. Les sciences sociales et politiques n'ont pas été en reste pour étudier la mondialisation. Ce qui a fait l'unité de leur étude, c'est effectivement la présence, la confrontation avec la notion d'espace social global, supposé recouvrir, surdéterminer, investir du dedans les espaces régionaux, locaux et surtout l'espace national, puisque c'est la crise de l'État-nation, avec la possibilité de sa réduction tendancielle, qui a fait l'objet de ces sciences sociales et politiques. Crise du paradigme national, étatique, territorial. La sociologie a suivi et même a accompagné ce mouvement, puisque, comme toujours, la sociologie pense les coûts, le prix, les blessures de l'économie et se demande quelles sont les formes du lien social qui naissent lorsqu'il y a des transformations économiques de l'ampleur de celles qui ont caractérisé la mondialisation. Ce sont donc essentiellement les sociologues qui font remarquer les structures inégales de la répartition des richesses, la naissance d'une nouvelle pauvreté, qui s'intéresse sur les formes de l'individualité qui est supposée être réalisée par la mondialisation, sur les contradictions entre la liberté et la sécurité, et d'une certaine manière aussi sur la montée de certaines formes de violence immunitaires, particulièrement non dialectisables, non convertissables nécessairement en force et en proposition politique. Il est donc étonnant de voir, et des raisons que je... Oui, il est donc à étudier de près la raison pour laquelle deux disciplines comme l'histoire et la philosophie ont été en retard, du moins en France, pour s'intéresser à la question de la mondialisation. La chose est très étonnante pour l'histoire, puisque jusque dans les années 60-65, la tradition historiographique française, dominée par les annales, par la thématique de la longue durée, par la prise en compte des structures à évolution lente, par les problèmes de géographie, de géopolitique, aurait pu s'intéresser à cette histoire d'abord économique et certainement autre qu'économique du monde. Il y a eu donc à ce moment-là le tournant critique des annales, la crise de l'histoire comme science, la montée en puissance du thème du récit, l'attention portée à la responsabilité et à la liberté des acteurs et à la critique faite aux macro-sujets qui supposaient faire l'histoire, encager l'histoire dans des systèmes totalitaires sur fond d'horizon donc de la crise des philosophies de l'histoire, qu'elles soient celles des Lumières ou celles de la tradition marxiste ou marxienne. Donc dans ces années, l'histoire a peu dit de choses sur la mondialisation. Peut-être que les choses vont changer, d'autant que, et c'est une science qui, elle, a beaucoup progressé et a beaucoup apporté dans l'étude de la mondialisation, la géographie sous la forme de la géopolitique, de la géostratégie, avec des recherches notables, dont celle de Jacques Lévy qui a parlé, je crois, ici, il y a peu de temps, elle, au contraire, avait élaboré la notion de système-monde, reprise d'un historien et disciple de Brodel, Immanuel Wallerstein. La philosophie en France ne s'est pas intéressée aux questions de la mondialisation de manière frontale, pour des raisons qui resteraient à élucider. Je crois que la plus importante, c'est la crise de la pensée dialectique de type de philosophie la philosophie a été vieux, avec tous les gestes théoriques qui l'ont accompagné et qui, d'une certaine manière, ont été le fond commun sur lequel la philosophie a vécu et qui l'a peut-être dispensé de continuer sa réflexion pour aborder les problèmes de la mondialisation. Je pense aussi qu'en France, la tradition française a été dominée par une philosophie de l'État, par une philosophie de la République qui l'a enfermée, je crois, pendant un grand moment sur les questions de l'État de droit, des droits de l'homme vus dans un espace territorial fermé et qui l'ont rendu un peu insensible au grand large à ce qui se passait dans le monde. Tel est l'état des lieux. Donc, avec cette espèce de développement inégal des disciplines, et il reste donc à se demander ce que l'on peut trouver en philosophie sur l'approche de la mondialisation. Eh bien, malgré tout, l'on trouve en France et ailleurs, peut-être plus ailleurs qu'en France, mais j'essaierai de faire des références à la fois des approches contemporaines étrangères et des approches françaises, on trouve malgré tout en France trois ou quatre directions de pensée inégalement représentées qui prennent pour objet la mondialisation et qui pensent que d'une manière ou d'une autre, la mondialisation, quel que soit le concept qu'on en donne, la définition qu'on construit reste le point de vue, l'horizon à partir duquel il faut voir ou penser l'ensemble des phénomènes. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'aujourd'hui, la mondialisation ou la globalisation, je ne rentre pas dans des discussions sur le sens des deux termes, est un petit peu l'équivalent de ce qu'a été l'obsessive question sociale au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Je distinguerai donc quatre manières d'approcher les phénomènes de mondialisation. Et la première se situe dans l'horizon des philosophes ou des penseurs qui suivent de près les élaborations économiques, il y en a quelques-uns, et qui développent un globalisme économique qui devient vite un globalisme économiciste. J'en présenterai rapidement les traits et j'examinerai les choses d'un point de vue un peu critique. Et la deuxième approche philosophique de la mondialisation, c'est ce qu'on pourrait appeler une approche cosmopolitique, un globalisme cosmopolitique, éthico-juridique, et qui est bien représenté en France. Il y a de là une tradition propre à notre pays qui a été renouvelée. La troisième forme d'approche de la mondialisation, c'est une approche d'un globalisme que l'on pourrait dire subversif, révolutionnaire entre guillemets. Je dirais quelques mots sur l'ouvrage qui est un best-seller dans le monde entier de Negri de Hart, Empire, et j'en présenterai aussi une exposé critique. Et quatrième approche que l'on peut distinguer en France, c'est une approche originale. Elle est moins nourrie que les autres de connaissances historiques, économiques, juridiques, sociologiques ou politiques, mais elle est plus directement liée à une approche philosophique qui nous renvoie donc à la tradition de Nietzsche et Heidegger et qui est la déconstruction de la pensée philosophique. la mondialisation donc va être insérée d'une certaine manière dans une grande représentation critique de la modernité, de la postmodernité, sous la rubrique du nihilisme. Reste enfin une cinquième approche, c'est un petit peu celle que j'essaierai de développer sans la développer pour elle-même, mais qui est le point, dans lequel, le levier dont je me sers, qui est d'une manière ce que l'on peut hériter aujourd'hui, qu'il faut hériter à mon sens, de la théorie de Marx comme un grand classique du 19e siècle, qui a été probablement le plus grand penseur de la mondialisation en son siècle. Je commence donc par la première de ces pensées, de ces élaborations. Je commence donc par le globalisme économiste lui-même. Il s'agit essentiellement donc d'une représentation proprement économique pure de la globalisation, qui montre, qui s'intéresse à la constitution des flux financiers, aux relations d'investissement, au mouvement des capitaux, au mouvement des hommes, et qui nous montre que d'une certaine manière aujourd'hui, l'espace se constituerait une société civile globale, structurée par la diversité de ces flux, et qui sont tous bien entendu régis par l'impératif de productivité et par conséquent par la concurrence, et que d'une certaine manière, cette globalité économique est irréversible et qu'elle met en crise définitive, par exemple, toutes les politiques économiques fondées sur l'État territorial, et à commencer par la politique du welfare state, celle qui avait été à l'origine de notre législation sociale et qui aujourd'hui, comme vous le savez, est battue en brèche parce qu'elle coûte relativement trop cher. Je pense que ce globalisme, qu'il faudrait étudier dans ses détails en étudiant les grands théoriciens néolibéraux, a une prétention théorique considérable, mais je voudrais faire apparaître ici, je serais peut-être plus critique à son égard qu'à l'égard de bien d'autres représentations philosophiques. Il est représenté par en France ceux qui se revendiquent de Hayek, par exemple, qui est un grand penseur. Je ne prétends pas faire le tour de Hayek parce que je vais dire, mais je vais au moins signaler un certain nombre de points qui me paraissent des points saillants. Premier point, donc, ce globalisme, de manière paradoxale, renouvelle quelque chose que la philosophie ou l'histoire, après le tournant postmoderne, avait cru pouvoir éliminer comme étant une représentation qui obstruait la recherche et qui avait fait son temps, ce globalisme économique se présente comme une véritable philosophie complète, une métaphysique du marché mondial. Le marché, l'institution du marché et du système d'entreprises qui sont inscrites dans le marché est présenté comme ce qui a une sorte de primat, hein, et l'universel économique devient l'universel des universels. Histoire donc de curieuse, puisque d'une certaine manière, après des années passées à discuter, à critiquer l'économisme marxiste et de manière souvent pertinente, on a un économicisme libéral qui essentiellement donc nous dit que cette société globale, présentée comme un immense marché, représente l'horizon indépassable, un point terminal de l'histoire. Et d'une certaine manière, cette pensée a beaucoup de peine à intégrer en tant que telle les autres dimensions de la réalité sociale, qu'il s'agisse de la réalité politique, économique ou même de la réalité écologique, puisque ces problèmes ne peuvent être traités par elle que s'ils sont retraduits en termes donc, de logique systémique de marché. Donc, réduit à cette caricature que j'en fais, mais pour des raisons polémiques dont vous voyez bien la signification, ce globalisme est une logique monocausale, hein, et qui retrouve pour lui une métaphysique de l'histoire, puisque l'histoire s'arrête avec le marché mondial et la démocratie libérale qui l'accompagne. Donc, de ce point de vue encore, nous retrouvons le geste d'une philosophie de l'histoire que l'on croyait disparue. Il y a une philosophie libérale, un grand récit libéral de l'avènement, de l'installation du marché comme forme finale de l'histoire. Deuxième remarque à propos de ce globalisme économiciste, qui est une position philosophique comme une autre, hein, ce globalisme occulte les dimensions de l'être social, de la pratique sociale, et survalorise d'une certaine manière la technologie, la puissance d'organisation de la technologie, et ne pose pas un certain nombre de questions qui pourraient précisément le remettre lui-même en question. Une remarque le fétichisme du marché occulte le fait que le marché a été développé de manière extrêmement inégale, qu'il y a une pluralité de marchés, marché de la main-d'œuvre, marché des capitaux et autres marchés, et ceci donc est aujourd'hui fait de plus en plus problème. Considéré de ce point de vue, ce globalisme économiciste, qui a des prétentions, disons, de philosophie destinale et terminale, tend à accréditer, c'est en ce sens que je crois qu'il faut l'interroger, qu'il est une pensée irréversible, que la mondialisation est irrésistible et irrésistible, et d'une certaine manière, il la présente comme une fatalité à laquelle on ne peut pas s'opposer. Et l'effet de cette prétention ou cette affirmation, c'est de produire un climat de terreur intellectuelle, puisqu'on ne peut pas s'opposer à cette volonté du marché. Et d'une certaine manière, il faut en payer le prix, il faut chercher éventuellement à les compenser, mais en tous les cas, le globalisme économique produit un effet de terreur paralysante pour l'analyse, il épouvante, et l'épouvante, d'une certaine manière, a une fonction dans le consensus contraint ou extorqué et dans la montée de le sentiment d'insécurité. Voilà ce que je voulais dire ici, et simplement pour montrer que ce globalisme peut et doit se remettre en question. On peut poser un certain nombre de questions simples pour faire apparaître que, d'une certaine manière, le globalisme économique, la mondialisation, n'est pas un phénomène économique pur, c'est une politique. C'est une politique qui s'est constituée sous la forme qu'on connaît dans les années 70-80 et qui a eu pour objectif la réactivation donc, de la productivité donc, du capital face à des mouvements de résistance qui coûtaient trop cher et qui étaient en quelque sorte des obstacles à la concurrence. Les questions simples qu'on pourrait poser au globalisme économiciste, je dis économiciste puisque j'ai fait un petit mannequin théorique pour vous provoquer et provoquer la discussion en même temps, c'est qui gère les contrats de travail, qui gère les organisations internationales, quels sont les mécanismes, dans quelle mesure sont prises en considération les normes minimales de travail et de production respectant la dignité humaine, qui sont les vainqueurs et qui sont les vaincus du globalisme économique. Ces questions, il faut les poser, elles dérangent quelquefois le globalisme, mais ce sont des questions, bien entendu, inévitables, et je les repose à mon tour. Deuxième, dernière remarque sur le globalisme. Ce globalisme, par son caractère massif, suscite des réactions de rejet. Et on peut très bien avoir un globalisme anti-économiciste tout aussi massif et qui, bien entendu, va inverser en positif ce que, en négatif ce que le globalisme est supposé apporter de positif. Si la société globale est notre horizon qui doit accroître la richesse, satisfaire tous les besoins à terme, eh bien, il sera facile, en insistant sur les dégâts écologiques, en insistant sur la crise du travail, sur la fin d'un certain type de travail, sur la montée du chômage structurel, sur les épouvantables inégalisations structurelles de l'économie monde, il sera facile d'inverser l'optimisme du globalisme économiciste en catastrophe, en catastrophiste. Et de ce point de vue, on parlera de la fin de l'État, de la fin de la politique, de la fin de la culture et la fin du monde, pour dire au fond que la mondialisation produit un monde sous la forme d'un non-monde, puisque ça n'est pas le monde de tout le monde, puisqu'il y a de très grandes inégalités et que certains ne peuvent plus simplement vivre dans ce monde. Et c'est là d'ailleurs une question philosophique fondamentale, parce qu'effectivement, si le monde est l'horizon d'accomplissement des activités ou des interactions humaines, il est bien évident que le monde doit être fait pour être habité. Une question que posait Heidegger et qui me paraît juste, est-ce que notre monde est habitable pour qui et comment ? J'en arrive donc à la deuxième. Je passerai à Negri maintenant, si vous voulez. Je passerai donc à Negri maintenant, plutôt que de passer à ce que j'ai appelé le cosmopolitisme juridico-politique ou éthique, qui est la deuxième ou troisième forme d'attitude philosophique face à la mondialisation. Je passerai à Negri parce que lui, d'une certaine manière, accepte la totalité des présupposés théoriques du globalisme économiste. Il n'en inverse pas les signes dans un catastrophique, il repropose d'une certaine manière une vision optimiste de la mondialisation dans la théorie de ce qu'il appelle l'empire. Lui appelle empire ce que les libéraux, les néolibéraux appellent société mondiale globale. Et il nous dit donc que, de ce point de vue, l'émergence d'un espace social global recouvrant, intégrant les autres espaces, affaiblissant l'espace politique et conduisant, d'une certaine manière, une théorie anarchisante du politico-étatique, doit être prise en compte. Et il soutient lui aussi le primat de l'espace. D'ailleurs, je crois que c'est un des problèmes épistémologiques fondamentaux. Faut-il penser la globalisation à partir donc d'un primat de la catégorie d'espace global qu'il emporterait sur les relations sociales et les rapports sociaux, ou faut-il penser l'espace global comme un produit de rapports sociaux que, pour ma part, j'appellerai toujours capitaliste? Et c'est une discussion que j'espère on aura. En tous les cas, je reviendrai sur ce point. Donc, par quelqu'un comme Negri, la globalisation ou la mondialisation est à la fois un processus, puisqu'il s'agit de la troisième vague de mondialisation, les grandes découvertes, ce qui se passe à la fin du XIXe siècle avec la montée des impérialismes, des conflits intercoloniaux. C'est l'époque où les relations internationales et où les échanges ont été les plus denses, comme l'ont montré des économistes comme Hirst et Thompson. Nous retrouvons qu'aujourd'hui le volume d'échanges économiques qui caractérisait le monde avant 1914. Nous retrouvons aujourd'hui, au fond, une troisième période de mondialisation qui serait une sorte de remondialisation à partir de, non pas de la parenthèse, mais de ce qui s'est passé au XXe siècle, où le marché mondial a été brisé de plusieurs manières, avec les convulsions politiques, des mouvements de mobilisation générale qui ont été, de manière inégale et symétrique, je ne les confonds pas, le fascisme et le communisme soviétique. Donc la globalisation ou mondialisation serait à la fois un processus, un état que l'on peut décrire, et un événement philosophique ou ontologique. Et effectivement, si vous regardez Empire, Empire donc nous donne à penser ce pouvoir spécial, ce pouvoir mondial, global, qui a pour acteurs les acteurs régionaux, les individus, les classes, les États inégalement développés, puisqu'il y a des États plus forts que d'autres, il y a des États impériaux, il n'y en a peut-être qu'un aujourd'hui pour l'instant, et en quelque sorte, au niveau suprême, le système monde en tant qu'espace de contraintes, espace dont il faut en quelque sorte penser la capacité qui est présente par ces contraintes dans tous les points, dans tous les lieux donc, du monde. Donc, deuxième approche, celle de Negri, que je voudrais encore caractériser un petit peu plus. Hein. La mondialisation, c'est un événement épocal, plus qu'une troisième phase dans le processus de mondialisation que connaît le mode de production capitaliste. Elle constitue une espèce d'exception, puisque d'une certaine manière, tout le monde aujourd'hui reconnaît la nécessité d'une gouvernance globale. Cela s'atteste dans les crises internationales et militaires, cela s'atteste dans les phénomènes de dérégulation de l'économie politique, dérégulation qui a été un élément fort du globalisme économiciste dont j'ai parlé. Et d'une certaine manière, le monde est gouverné par cet empire dont il faut former la catégorie qui n'est pas un empire impérialiste, ça n'est pas l'impérialisme de Lénine, c'est encore autre chose. Les faits, si vous voulez, intérieurs de l'empire sont gouvernés par des logiques spéciales dans lesquelles on retrouvera bien sûr les logiques du capital, Negri utilisant Marx à sa manière. Donc de ce point de vue, l'empire se présente comme un ensemble de valeurs éthiques supérieures, universelles, qui l'autorise à intervenir en chaque conflit, à les traiter comme exception grâce à la thèse de la guerre juste, et la guerre juste qui, en quelque sorte, tend aujourd'hui à recouvrir une police universelle, sans qu'il y ait un État universel, puisque l'Empire n'est pas un État, c'est une réalité spécifique et sui generis qu'on peut appeler une espèce de monstre logico-politique qui caractériserait la nouveauté du XXIe siècle. Donc, cet Empire subsume sous lui-même la vie des individus, du corps social, des composantes du corps social. Il est même un biopouvoir, un biopouvoir, puisque sans recourir à une dictature totalitaire, eh bien, il fait de la production qui travaille pour la vie. Et c'est précisément cette puissance affirmative de l'Empire qu'il s'agit de consacrer, de garder, à une réserve près, dont je parlerai bien entendu tout de suite. C'est donc l'empire qui se substitue au grand marché et qui, bien entendu, ici est présenté avec des contradictions, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans la représentation économiciste dont j'ai parlé. Et surtout, vous savez vous savez, vous pouvez savoir que Negri pense, en radicalisant, en hyperbolisant, en étant plus Marx que le Marx de 1848, d'une certaine manière, il produit, selon lui, un monde de forces créatrices, opposées, qui sont capturées par l'Empire en tant qu'il est déterminé par la productivité du capital, et qui s'appelle la multitude. Et Negri attend de la multitude, qui est composite, des nouveaux barbares, que, précisément, ils puissent libérer leurs forces productives de la compression de l'Empire et que l'Empire puisse se renverser ou s'inverser de son propre mouvement d'espace global impérial en une république mondiale, un internationalisme d'un nouveau type, puisque ceux qui sont pris dans l'Empire et qui en subissent la domination, quelle que soit la place qu'ils occupent dans les rapports sociaux, ils sont très divers, le chômeur, l'immigré, l'habitant des pays les plus pauvres, quelques minoritaires, tout ceci mis ensemble formant la multitude, l'espace, donc, vivent leur situation dans l'Empire comme un trou noir. Ils n'ont pas de lieu dans l'Empire. Ils sont ceux qui expérimentent que l'Empire, comme lieu global, est un non-lieu pour eux, pour une multitude croissante. Et précisément, cette expérience annihilante de l'Empire comme non-lieu pour la multitude est présupposée avoir la force de transformer la multitude en force de choc, en force de combat, contre l'Empire. Je n'ai fait, bien entendu, qu'être très, très rapide dans cette présentation de Negri. Je pense, pour ma part, que cette représentation stimulante, parce qu'elle intègre beaucoup de travaux de sciences sociales anglo-saxons que les Français ne connaissons pas assez, hélas, néanmoins, donc, doit être acceptée avec beaucoup de réserves critiques. La première réserve que je ferai, c'est que... On se demande, en commençant par la fin, comment ces multitudes vont pouvoir s'organiser, quels compromis vont-elles passer, quel type d'action politique vont-elles pouvoir avoir, comment vont-elles construire leur hégémonie. Il ne suffit pas de les mettre ensemble pour qu'elles puissent effectivement accomplir en positif ce que la mondialisation n'accomplit pas pour tous, pour tout le monde. Il y a donc là un problème de lisibilité politique. Bon, mais je n'insiste pas, ça me paraît évident aussi. Il me semble aussi, et c'est la deuxième remarque que je voudrais faire, que, à propos de Negri, c'est que Negri va très vite sur la constitution de cet espace global comme empire, et qu'il y a chez lui, et d'ailleurs comme dans le globalisme économiciste, il y a chez lui une sous-estimation de la structuration politique du monde. De la structuration politique du monde. Et là, on retrouve précisément un des problèmes clés posée par les politologues ou les juristes de la mondialisation, qui est la fameuse question de savoir si l'État va disparaître, s'il est réduit à rien, ou si, au contraire, il faut le maintenir. Je crois qu'il s'agit là vraiment d'un problème qu'il faut dépasser. La mondialisation, la globalisation ne détruit pas l'État. Elle redimensionne les rôles et les fonctions en organisant, en contraignant les États à participer autant qu'ils le peuvent au drainage des capitaux, au maintien de la discipline, pour que les États puissent d'une certaine manière participer à la force des multinationales, des grandes corporations qui sont des corporations nationales. À ma connaissance, lorsqu'on parle de firmes transnationales, pour désigner le fait qu'une firme a plusieurs lieux de production qu'elle délocalise et qu'elle prend des décisions qui peuvent concerner des gens de différents pays, on a raison, mais la firme reste quand même une firme avec un lieu national particulier. Et aujourd'hui, l'inégalité toujours croissante entre les États, je ne sais pas si centre et périphérie fonctionnent, mais il reste une hiérarchie d'États. Il est bien évident que les États puissants sont des États qui sont liés à des firmes extrêmement puissantes. Les États-Unis, je crois, en fournissent un petit peu l'exemple. Si l'État est à l'ordre du jour pour disparaître, l'État américain n'est pas prêt de disparaître, comme il l'a rappelé à ceux qui l'avaient oublié dans les phénomènes précédents dans la guerre en Irak. Donc, par-delà les équivoques politiques, le romantisme excessif, l'actualisme subversif, sympathique, c'est selon, en tous les cas évident, de Negri, il est bien évident qu'aujourd'hui, nous devrions, c'est une étape, je crois, de la théorie, penser ensemble le mouvement économique par lequel les grandes entreprises capitalistes, avec leur nouvel mode de production, leur nouvelle technologie, restent malgré tout, c'est l'unité qui les lie à leur première histoire, liée donc à la concurrence, à la lutte féroce pour la concurrence, pour la conquête des marchés, et que le mouvement de conquête des marchés ne peut pas être séparé du mouvement par lequel il est décalé, il est différent, mais il n'est pas complètement séparé par lequel les élites politiques, et pas seulement les élites politiques et militaires, et pas simplement les élites entrepreneuriales, les élites politiques, sont contraintes à lutter pour conquérir une place dans un monde qu'elles redessinent, dans un monde qui est un monde stratégique et dans lequel il y a vraiment un enjeu et un agone pour leur zone d'influence, comme on le voit, c'est-à-dire pour se partager et repartager le monde. Vous aurez compris que, de ce point de vue, je suis en train, vous m'excuserez de cet archaïsme, je suis en train de dire qu'on a enterré la catégorie d'impérialisme trop vite. C'est évident que l'impérialisme nous renvoie à une situation, celle de la fin du 19e et du 20e siècle, bien théorisée par beaucoup de penseurs, pas seulement Lénine, Ilferding, Hobson, Kautsky, des gens donc politiquement très différents, où nous avions donc une concurrence entre des entreprises internationales mais non seulement localisées, qui était aussi un affrontement entre des grandes puissances pour un partage du monde, aucune de ces grandes puissances n'ayant véritablement donc une hégémonie. Et ce genre d'impérialisme intervient lorsqu'il y a une situation de multilatéralisme, multipolaire, et que les conflits vont à la guerre. Aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de confronter les analyses paniques et séduisantes de Negri à une analyse géostratégique un peu plus avisée. Nous ne sommes pas dans une situation de l'impérialisme de 14, là-dessus nous sommes bien d'accord. Nous sommes dans une situation tout à fait différente, qu'on pourrait appeler celle d'un semi-impérialisme, où, entre les grandes puissances secondaires, il y a un accord pour limiter la concurrence, éventuellement se fédérer pour conquérir des parts de marché, néanmoins sans aller jusqu'à la guerre. Et ces puissances secondaires dont nous sommes, centrales, sont néanmoins des puissances qui doivent faire avec la puissance impériale, qui garde, même si on nous dit qu'elle est en déclin sur le plan économique, garde une suprématie militaire géostratégique absolument indiscutable. Rien ne prouve que cette situation va durer. Il se peut très bien que la situation polyarchique qui a été celle des années 14 se renouvelle et qu'on ait une situation qui obligera à redéfinir la notion d'impérialisme et plutôt que de recourir à la notion protoplasmique et un peu magique d'empire que développe Negri. Bon, vous aurez compris que, de ce point de vue, je ne suis pas négriste et que j'ai essayé de dire ce qu'il y avait de séduisant et d'intéressant dans son approche, mais en même temps de ce qui me paraît quand même devoir être tempéré. D'ailleurs, ce qui pose la question de savoir quel est vraiment ce fameux espace global, mondial, dans lequel nous sommes, parce qu'il faut bien le vertébrer, cet espace global, mondial, et comme j'ai essayé de le montrer, les États n'ont pas disparu, les États restent, il y a simultanéité entre la lutte pour la conquête des parts de marché et la lutte politique, décalée, différente, mais couplée, lutte pour la conquête, la construction de zones d'influence, ce qui dépasse très considérablement la lutte pour le pétrole. C'est une manière vulgaire de penser à la chose. Troisième remarque, troisième manière de position philosophique pour penser la mondialisation, c'est celle du, que j'appellerais donc le globalisme éthico-juridique ou le cosmopolitisme éthico-juridique, qui est certainement une tentative extrêmement qui est intéressante, c'est celle dans laquelle beaucoup de penseurs se situent. Je vais en dire simplement un mot. Probablement que le représentant le plus intéressant de cette pensée, le plus fort, ça n'est pas français, mais il a beaucoup de disciples en France. D'ailleurs, peu importe qu'il soit en période de globalisation, qu'il soit français, turc ou autre, ça n'a pas d'importance. C'est Jürgen Habermas, donc, qui certainement, dans ses derniers travaux, a fait beaucoup pour accréditer l'idée d'un espace politique post-national et qui, en quelque sorte, nous demande de radicaliser la question de la démocratie. La relance de la démocratie étant la seule chose, le seul jeu possible pour pouvoir, non pas, pour ne pas accepter de manière joyeuse, comme le fait Negri, ou pleinement affirmative, comme le fait Negri ou le globalisme économiciste, mais pour l'accepter sous la forme du oui, mais. Il est bien évident que pour quelqu'un comme Habermas, la globalisation de l'économie est irréversible, la constitution du marché mondial est irréversible, les mutations dans l'appareil productif sont irréversibles, et il est bien évident que pour lui, le marché et la monnaie sont des moyens, des médiums, des milieux sur lesquels on ne peut pas revenir en cause, et pour lui, toute idée d'une remise en cause de la machinerie économique de type anticapitaliste est vouée à l'échec, et il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé à l'Union soviétique, selon lui, de manière radicale. Mais Habermas ne capitule pas pour autant. Et il pense donc que, d'une certaine manière, le monde global, cet espace global, s'il menace de coloniser les formes de la vie quotidienne, le vécu, d'imposer sa loi de fer, qui est la loi donc de l'économie et la loi de la représentation politique et de la bureaucratie, néanmoins offre des possibilités d'un bon usage de la mondialisation, qui sont les possibilités d'un usage démocratique, mais bien entendu à condition d'élargir la démocratie. La démocratie ne peut pas être pensée dans le seul cadre d'un État représentatif. Elle doit être représentative et participative à la fois, et elle doit en quelque sorte intégrer des nouvelles formes politiques autres que celles de l'État, comme celles de la fédération ou de la confédération. C'est le cas de la proposition, disons, européenne. Donc, de ce point de vue, puisqu'il est illusoire de rêver à une fin de l'argent, du marché, de la grande entreprise, il faut tout simplement compter sur les mouvements sociaux, classiques et non classiques, qui, eux, en demandant de prendre la parole, en demandant donc que les questions dérangeantes soient posées, en voulant que l'agir stratégique ou l'agir rationnel, qui est posé, structuré, la société en ces différents espaces, soit en quelque sorte contesté, problématisé par des espaces de communication où les agents en première personne pourraient poser des questions concernant la fin, les moyens, et pourraient intervenir pour limiter ce qu'il peut y avoir de destructeur dans les processus de la mondialisation. C'est donc une résistance fondée sur la mobilisation de l'agir communicationnel à plusieurs niveaux, avec l'invention de nouvelles formules comme celle de la fédération, d'où le militantisme pour l'Europe, qui, pour lui, peut être en quelque sorte fondamentale. Et Habermas de souligner que seule la démocratie maintient les principes de notre civilisation, que ceux de liberté, d'égalité, ou sinon de fraternité, du moins de solidarité. Cette vision n'empêche pas Habermas d'être parfaitement lucide et critique, hein, et de dire d'une certaine manière, il y a dans sa pensée une sorte d'attristement de la pensée. Hein. La sphère de l'opinion publique sur laquelle il comptait beaucoup dans ses premières réflexions a été revisée à la baisse, et c'est essentiellement donc sur la notion de droit, sur l'élaboration d'une version faible de la souveraineté qu'il compte pour limiter la mondialisation et pour en faire un espace de liberté possible, malgré le prix terrible dont elle se passe. Je voudrais faire une remarque évidente sur cette élaboration que j'ai outrageusement simplifiée, mais c'était un petit peu volontairement. Cette stratégie de la démocratie repose en vérité sur une connexion entre le droit, l'éthique du discours et la délibération démocratique. Elle n'est pas sans rapport avec celle de Rawls, que je laisse de côté pour l'instant, parce que je pense que Habermas affronte plus thématiquement les questions de la mondialisation, parce qu'il est davantage sociologue et intéressé et capable d'interpréter les phénomènes empiriques. La question que je voudrais faire est une question simple et peut-être un peu évidente. Est-ce que la mobilisation de l'agir communicationnel, partout où c'est possible, l'invention de nouvelles structures politiques fédérales, la promotion de la démocratie participative peuvent réellement faire contrepoids à une mondialisation qui est acceptée comme une nécessité fonctionnelle et irréversible. Il faudrait peut-être, et là c'est une chose qui a été souvent remarquée que je prépare à mon compte, il faudrait peut-être se demander à quelles conditions la démocratie participative, le droit, l'éthique peuvent coloniser, recoloniser l'instance qui les a colonisés, c'est-à-dire donc la nouvelle économie bien entendu donc ce qui est devenu la politique lorsqu'elle est complètement elle est devenue fonctionnelle et qu'elle fait bloc avec un certain type donc d'économie. Deuxième remarque aussi, la pensée d'Habermas est une pensée du consensus obtenu par la discussion, par la supposition que chacun est de bonne foi, qu'il faudrait que la vie politique ressemble à un parlement généralisé où chacun argumente avec le souci de l'argument le meilleur pour obtenir l'accord de celui qui l'écoute et qui discute avec lui. Mais d'une certaine manière, la théorie du consensus est une chose. Il est bien évident que lorsqu'il y a des pressions énormes exercées par certains phénomènes sociaux, le discours a sa place. Mais on ne peut avoir que des formes de discours impurs, un mélange d'agone et de logos, un mélange donc de consensus et de dissensus. Et il y a peut-être une idéalisation du consensus qui, elle, fait aussi un problème et qui mériterait d'être analysée. Voilà pour cette quatrième forme. Donc, il faudrait, bien entendu, continuer la discussion, donc, la question de ces questions critiques que j'ai essayé de développer elle-même. C'est la troisième forme, je crois, que l'on peut trouver pour penser la mondialisation. Il y aurait d'autres penseurs qui mériteraient d'être étudiés. Il y en a un qui s'appelle David Held. Je vais préparer quelque chose sur David Held, mais ce n'est pas la peine. Mais je crois que ça sera publié, ce n'est pas intéressant. Dans la même version qu'Habermas, mais sur un point plus radical, il y a donc une autre manière de jouer la carte démocratique. Je la classe malgré tout dans l'instance du cosmopolitisme libéral, social, mais radicalisé. C'est ce qu'on pourrait appeler donc la réponse des démocrates radicaux. En France, ils sont représentés. Je pense qu'Étienne Balibar en est certainement un des représentants les plus aguerris. Chez eux, il y a une plus grande sensibilité parce que leur formation, leur séjour dans la pensée de dialectique des contradictions les a conduits à ne pas idéaliser les phénomènes de consensus et à peut-être pas accorder plus d'importance aux phénomènes de lutte. Il y a donc, de la part donc, de ces démocrates radicaux, cette idée que dans une situation où la révolution est devenue impossible et impensable, il est bien évident que la démocratie doit être jouée, mais à condition d'être vraiment une démocratie radicale, de première personne, d'intervention des acteurs, et surtout donc qu'elle sache cibler ses objectifs. Et les recherches de Balibar portent toujours, et c'est un sens qu'elles sont vraiment intéressantes, sur les problèmes laissés ouverts par, aujourd'hui, la mondialisation. À savoir donc la déstabilisation apparente des États-nations par des populations hétérogènes, la question de l'immigration, la question de la gestion internationale de la force de travail qui oblige à repenser la question de la citoyenneté en la déconnectant de la nationalité et en ouvrant sur une citoyenneté plurielle ou métisse, ce qu'il appelle les identités ambiguës. Et il est probable que les propositions de Balibar doivent, ou de ce genre de pensée, doivent avoir des conséquences politiques qui, certainement, excèdent, ne peuvent pas être simplement inscrites dans le seul fonctionnement d'une démocratie participative, mais qui exige certainement donc une attention plus grande aux mouvements sociaux classiques et surtout nouveaux de la mondialisation dont je ne parle pas aussi, parce que la mondialisation a changé la configuration de classe classique, puisqu'il faut aujourd'hui penser la pluralité des sujets qui, animés par le souci de la différence, veulent avoir voix au chapitre. Il faudrait donc ici poser la question des subjectivités plurielles qui, comprimées par les phénomènes négatifs de la mondialisation, ne demandent pas tant l'inclusion ou l'intégration que la reconnaissance de leur propre singularité et surtout qui demandent un éthos que j'appellerais un éthos de transfrontière. Ne pas être l'homme d'un État, être l'homme trans, celui qui traverse les frontières dans un sens comme de l'autre, en utilisant effectivement ce qui, dans la mondialisation, fait vaciller les frontières. Mais comme vous le savez, les frontières vacillent. Elles sont plus facilement pénétrables par les capitaux, les investissements. Pour les hommes, les migrations de masse posent des problèmes où, bien entendu, interviennent les États. D'ailleurs, on peut penser qu'une des grandes fonctions de l'État qui demeure, au moins pour les États centraux, si d'autres lui échappent, ou s'il est obligé de renoncer au keynésianisme, qui n'est peut-être pas une solution, c'est de gérer la force internationale de travail. C'est au niveau de l'État que se fait la gestion des populations, encore aujourd'hui. Donc là, en ce sens, il faut donc développer des analyses complexes pour ne pas avoir une vision trop simpliste de la société globale ou de l'État. Vous voyez que j'essaie de baliser beaucoup de problèmes sans en traiter vraiment aucun. Je fais une espèce de cartographie des problèmes en par le biais d'une restitution de certaines approches de la mondialisation. Alors, bien évidemment, arrivé à ce point, se pose une question. Parce que finalement, la mondialisation, moi, je ne l'ai pas définie. Comment la définir ? Faut-il partir de l'espace global, des modifications que cet espace global, industriel et social produit, ou faut-il garder la référence vétéro-marxienne ou marxiste, je pense que ça, c'est, au moins à titre d'hypothèse de travail, il faut la garder, à l'analyse en termes de rapports sociaux. La question que pose la mondialisation est la suivante. Faut-il penser, c'est une question que j'ai évoquée, que j'évoque encore maintenant, la production du monde comme en quelque sorte doué d'une sorte d'autonomie où l'espace global devient une espèce d'espace un espace quasi-divin, un peu comme l'espace newtonien qui avait les propriétés de Dieu, à la défaut d'en avoir la spiritualité, mais qui avait au moins l'infinitude, etc. Laissons Newton de côté. Faut-il penser la mondialisation à partir donc, du primat incontestable du point de vue global, déconnecté de sa qualification ou de sa déterminité sociale, ou faut-il penser la production du monde global comme étant inscrite dans les rapports sociaux de notre société qui reste capitalisme. C'est en ce sens que la provocation marxienne a un sens. Si nous ne voulons pas faire de la mondialisation un événement métaphysique qui surgit du néant et qui impose de reconnaître des nouveautés, et ces nouveautés, il faut les reconnaître, mais c'est toujours le problème de l'unité, de la continuité, de la discontinuité. Jusqu'à preuve du contraire, la discontinuité que représente la mondialisation, c'est une discontinuité dans une continuité qui est précisément l'émergence de la société moderne gouvernée par le mode de production que j'appelle capitaliste, qui a eu sa phase impérialiste, qui aujourd'hui se remondialise. Donc, je crois que la question que pose la mondialisation, elle est facile à décrire, la mondialisation. On peut décrire l'universel économique, le nouvel universel politique, la déstabilisation de l'État, les problèmes culturels, la soi-disant l'homogénéité culturelle du monde et les résistances à l'homogénéité culturelle du monde. On peut faire beaucoup d'analyses. La question, c'est que les analyses empiriques doivent trouver donc une conceptualité juste. Et cette conceptualité juste, aujourd'hui, je crois qu'elle est un gros objet, et un gros objet de la pensée. Et particulièrement, la question donc de la mondialisation processus nous oblige à partir de plus loin, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, et d'arriver jusqu'à là aujourd'hui, et s'il y a bien un état de mondialité qu'on peut décrire empiriquement, il est beaucoup plus difficile de comprendre la dynamique qui produit la mondialisation et qui n'est pas simplement économique, mais doit être pensée de manière, et compréhensive et aussi explicative. Bon, ça c'est la remarque que je tire de tous ces phénomènes, c'est que de ce point de vue, la mondialisation ne fait pas l'objet, n'est pas un discours univoque. Il y a plusieurs manières de la penser. Vous le voyez, je fais une petite parenthèse ici. Il y a penser la mondialisation par les quatre biais que j'ai utilisés. Hein, et pour la pensée de Habermas, à l'horizon, le droit international, une confédération d'États libres, la paix, etc. Bon, mais il n'y a pas accord. Les sociologues les plus avisés et les plus critiques, je pense à Bourdieu en France et à Bauman en Angleterre, qui est une figure extraordinaire, eux, on tente une approche de la mondialisation qui, sans renoncer à la continuité, c'est bien le même type d'économie capitaliste, en pense la discontinuité, pour jusqu'à former cette idée extraordinaire d'une société civile ou d'un capitalisme liquide et liquidateur, qui me paraît une idée extrêmement intéressante, mais que je laisse de côté pour l'instant. Donc je crois que la construction du concept de mondialisation, ne serait-ce que par les problèmes de périodisation qu'elle pose, ne peut pas se résumer à la collection empirique des phénomènes qu'il est très facile de décrire et qui font la une, qu'on trouve dans tous les bons manuels. J'en arrive enfin, j'ai encore un moment, à la dernière position philosophique à l'égard de la mondialisation, elle est plus proprement philosophique. C'est celle qui s'inscrit dans le sillage de Heidegger. Elle est peut-être propre à la France seulement, c'est peut-être une spécialité française, bon pourquoi pas. En tous les cas, elle me paraît intéressante et suggestive tout autant que celle de Negri. Heidegger était certainement de tous les philosophes du XXe siècle celui qui était prêt à développer une conception ou à accueillir dans sa pensée une conception globale de l'histoire occidentale et accueillir en quelque sorte la globalisation ou la mondialisation comme dernier stade de ce qu'il appelle la technique. Et il est bien évident que cette identité entre l'histoire de l'être et l'histoire de la technique qu'il faut laisser aller donne à cette pensée l'allure d'une grande métaphysique négative, ou en tous les cas d'une grande représentation, ou plutôt vision de l'histoire, même si le mot concept de vision n'est pas heideggerien, qui permet en quelque sorte d'accueillir d'une certaine manière, donc, les pensées catastrophistes de la mondialisation, puisque, une fois que les indicateurs de progrès sont au rouge, il faut bien qu'on puisse penser les choses, et on peut les penser sous le biais de critiques et négatives que le fait Heidegger. Or, effectivement, en France, qu'il s'agisse donc de penseurs assez divers, je penserai à Derrida, je penserai à Granel, je penserai peut-être encore plus à Jean-Luc Nancy, il y a un effort qui a été fait, qui est un effort de type proprement philosophique, pour penser la mondialisation et comme processus et comme état, et en reposant donc des questions proprement philosophiques sur lesquelles je voudrais terminer, parce qu'après tout, vous aurez eu l'impression que c'est surtout la philosophie politique qui s'est exprimée, et peut-être pas la philosophie dite fondamentale. Alors je vous propose ces quelques réflexions pour terminer, à un niveau plus spéculatif que politique. C'est un niveau, et d'ailleurs c'est une des faiblesses de cette pensée, parce qu'elle surinterprète les données empiriques en passant à une catégorisation philosophique de survol, mais qui n'est pas sans intérêt. On peut poser un certain nombre donc, de questions. Et en tous les cas, en voilà une que pose donc Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy pose au fond deux questions fondamentales. On ne peut plus penser si facilement en termes d'universel et de particulier, cela est devenu très difficile, et il cherche d'une certaine manière ce que cherchait Hegel en son temps, Hegel probablement le plus grand penseur occidental, parce qu'il avait des catégories logiques qui avaient une signification politique et qui étaient construites dans le travail du matériel. De ce point de vue, je ne suis pas de ceux qui le considèrent comme un fou. Et d'autre part, c'est ce que fait Jean-Luc Nancy. Il essaie de montrer que le monde moderne, dans sa phase actuelle, ne peut plus être lu si simplement en termes d'universel et de particulier, pour la bonne raison que tous les universels se particularisent et deviennent donc des particuliers pour ceux qui ont à les subir, et que les particuliers peuvent aussi s'universaliser. Et la catégorisation en termes d'universel, même vous voyez que c'est un niveau d'approche extrêmement détaché, laisse place à cette idée d'une pluralité de singularité, et à une pluralité de singularité qui pourrait en quelque sorte s'exposer les unes aux autres dans un être, sous la forme de l'être en commun. Et poussant les choses assez dans un sens intéressant, Nancy nous dit qu'au fond, l'être, la question de l'être, c'est toujours la question de l'être en commun. Il n'y a pas d'être séparé de l'être en commun, et par conséquent, cet être en commun, il se donne non pas par le partage de propriétés communes, mais peut-être par le partage et la reconnaissance de singularités. Il ne s'agit pas de partager la même raison, il ne s'agit pas de partager des propriétés distinctives de l'espèce comme telle, il s'agit de partager peut-être des singularités de manière à ne pas les nier en produisant une sorte d'universel impur qui est un universel bigarré. Ça, ce sont des propositions intéressantes de Jean-Luc Nancy qui lui permettent, au fond, d'évaluer le monde de la mondialisation à partir de cette question. Est-il possible d'accoucher, de produire un universel bigarré qui ne retombe pas dans les logiques de pouvoir de l'universel et du particulier? Bon, c'est en ce sens que ça me paraît intéressant. Et deuxième question que pose Jean-Luc Nancy, c'est celle de la question du monde. Et il pose la question suivante. Qu'est-ce qu'être au monde? Qui est au monde? Et en quel sens aujourd'hui donc sommes-nous dans un monde commun? Et la question devient vite une question critique. Si effectivement la mondialisation fonctionne à l'inégalisation, à la concurrence permanente sur le plan économique et aux luttes agoniques sur le plan politique, avec à la limite la possibilité de la transformation du semi-impérialisme actuel à un nouvel impérialisme dont on ne peut pas prévoir ce qu'il sera, sinon à prévoir qu'il y aura des guerres. La question donc que pose Jean-Luc Nancy, c'est au fond la suivante. La mondialisation révèle donc notre immanence au monde. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a rien d'autre que le monde. Il est là. Ce monde aujourd'hui, donc, et c'est en ce sens qu'il fait un croisement intéressant entre Heidegger et la tradition marxienne, mais de manière extrêmement libre et originale, il est en train de dire qu'au fond, il n'y a rien, que la seule valeur absolue pour celui qui est au monde, c'est le monde. Le monde, c'est la valeur des valeurs, sans laquelle il n'y a pas d'autre valeur. Il y a une valeur absolue du monde. Néanmoins, la valeur absolue du monde aujourd'hui se trouve en quelque sorte subsumée ou accompagnée, portée, puisque c'est bien lui qui a mis le monde en valeur, par la valeur du capital. Le capital a mis le monde en valeur, mais la mise en valeur du monde par le capital met peut-être en difficulté la valeur de la valeur du monde, sous la forme simple que la question du monde, je termine par un point que j'avais évoqué, c'est la question de savoir qui habite le monde. Le monde est fait pour être habité. Le monde est-il habitable et par qui? Est-il également habitable et par qui? Alors, il est bien évident que si l'on pose cette question, on est bien obligé de réélaborer la question d'être au monde, d'appartenance au monde, et au fond de s'interroger sur peut-être la question philosophique la plus grave que pose la mondialisation, si les inégalisations structurelles, les dégâts portés à la nature ne sont pas repris en compte et rectifiés plus que sérieusement, est-ce que d'une certaine manière, il n'y en a pas qui sont au monde, sur le mode de n'être pas au monde? Quel monde? Et je terminerai sur une phrase de Goethe, et vous dites que cela fait un monde.
Est-ce que, posé en forme de philosophie actuellement dans le monde, est-ce que qu'on peut considérer qu'il y a une crise qui peut ressembler début de siècle aux crises dans les domaines scientifiques?
En philosophie?
Oui, enfin, de philosophie sociale. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a actuellement une grande crise qui ressemble au début de la crise de début de siècle, les scientifiques qui vivaient, comme ils n'avaient pas leur action épistémologiquement, les évolutions qui n'étaient pas définies, c'était pas comme aujourd'hui. Puis le monde des scientifiques, ils étaient en grande différence, de grande école. Mais aujourd'hui, moi, je considère que la philosophie sociale, il est en grande crise. Il y a trop de interactions, des raisonnements différents. Est-ce que un jour, on peut y arriver comme les scientifiques, avoir raisonné le monde et l'homme dans une philosophie qui peut répondre aux citoyens du monde?
Bon, d'abord, il faudrait que se demander si une crise philosophique et une crise scientifique sont de même nature. Bon, la philosophie, dans la mesure où elle est plurielle et agonale, est toujours plus ou moins en crise. Mais enfin, ça n'est pas une réponse à votre question. La réponse, la question que vous posez concerne les sciences sociales et de leur capacité à penser donc les aspects du monde. Je crois que d'une certaine manière, aujourd'hui, les sciences sociales ont plusieurs hypothèses, ont plusieurs interprétations. Il faudrait peut-être les confronter. Le problème, c'est qu'elles se confrontent peu souvent et qu'il y a une espèce de cloisonnement des discussions et des enfermements dans des écoles. C'est peut-être ça qui est le plus difficile. Moi, personnellement, je ne répondrai pas à la question. Je ne connais pas assez de l'intérieur la totalité ou même un grand nombre de sciences sociales pour vous dire si elles sont en crise. Bon, enfin, la question est de savoir qu'est-ce qu'elles nous disent du monde dans lequel nous vivons. Bon, je crois qu'il y a quand même eu ces derniers, surtout peut-être plus en sociologie qu'en philosophie, des réponses intéressantes. Ce qui me paraît actuellement aujourd'hui en crise et très fatigué, c'est la philosophie française, c'est la philosophie en France, hein, qui fait beaucoup d'histoire de la philosophie, qui rumine toujours les mêmes objets, qui a de la peine à s'approprier les contenus empiriques des disciplines qu'elle méprise comme empiriques. Même si l'empirique peut être traité, le problème, donc, on ne peut pas ignorer ce que nous disent ceux qui, au moins, regardent les choses. Bon, c'est tout ce que je vous dirai, mais je ne répondrai pas à votre question parce que je n'en ai pas la capacité.
Deux questions. La première étant beaucoup plus une remarque. Vous avez, à un moment donné, de façon explicite, mentionné le XVIe siècle comme étant le début de la mondialisation. Il me semble que les choses remontent à beaucoup plus lointain que ça. On peut, par une formule un peu amusante, dire que la mondialisation a commencé à cheminer avec les caravanes sur les routes de la soie, ou même en se restreignant à l'Europe avec les échanges sur l'étain, ou sur d'autres continents avec le commerce du sel. Bon, ceci n'étant qu'une remarque sans importance pratique, je voudrais par contre évoquer quelque chose que vous avez mentionné à un moment donné avec beaucoup d'insistance, c'est les universels, ce qui est tout à fait normal sur la mondialisation. Et il y a un universel que vous n'avez pas du tout mentionné, me semble-t-il, c'est l'universel des idées et du savoir. Et là, incontestablement, me semble-t-il, la science, avec sa fille qui est la technique ou la technologie, commence depuis le XVIe siècle à unifier le monde petit à petit. Et avec, en quelque sorte, l'universalité de la science dont le développement est d'origine occidentale, il se développe très certainement une communauté de pensée, et en particulier, si on parle des idées, il y a également de plus en plus l'universalité des droits de l'homme, les idées sur la démocratie. Et là, peut-être, ne se trouve-t-on pas devant quelque chose qui doit à la fois consolider la mondialisation et en même temps être un moteur et un régulateur de la mondialisation.
Oui,
Et en tout cas, quelque chose qui permet aux États, pressés par leurs opinions publiques, à agir et à modérer la mondialisation.
Oui, je vous remercie de votre première remarque. Il est bien évident que lorsqu'il s'agit de problèmes de périodisation, il y a des hésitations pour savoir à partir de quel moment il faut partir, quel phénomène il faut prendre en compte. La question est ouverte. Je pensais au XVIe siècle pour des raisons bien évidentes. C'est au XVIe siècle que le globe est perçu comme tel, puisqu'on fait la circumnavigation de la Terre et qu'on peut penser le globe terrestre puisqu'on en a fait le tour et que le vocable, le sémantème globe peut désormais rentrer dans la vie, dans la pensée, dans l'action, dans la pratique des hommes comme étant porteur de ça. C'est pour ça que je me suis arrêté au XVIe siècle pour vous donner ma raison. Hein. Alors la deuxième question que vous posez est bien sûr plus importante. Je suis passé peut-être trop vite parce que je mal équilibré peut-être l'exposé sur ce que j'ai pu dire à propos du cosmopolitisme éthico-politique dont j'ai parlé, dont vous dites qu'il pourrait être un recours pour tempérer, pour un bon usage de la mondialisation. Je dirais que je voudrais répondre en deux temps. Moi, je n'ai rien contre. Le problème, c'est qu'il faut voir aujourd'hui comment les choses se passent, comment les décisions sont prises, comment donc les droits de l'homme eux-mêmes sont énoncés et déclarés. Les droits de l'homme ne peuvent pas être présentés de manière, disons, trop simple, comme faisant simplement l'objet d'une seule énonciation, d'une seule diction. Les droits de l'homme sont toujours donnés dans une contradiction, dans des dictions antagonistes. Il suffit de se rappeler la manière dont les assemblées françaises révolutionnaires ont posé la question des droits de l'homme. Il y a eu liberté, égalité, puis il y a eu propriété, puis il y a eu fraternité. Et il y a eu des conflits extrêmement vigoureux, avec des argumentations cohérentes de côté. Et il y a eu, d'une certaine manière, une béance. Il n'y a pas eu accord. L'accord sur les droits de l'homme, il est facile lorsqu'il est formel, mais lorsqu'on s'interroge sur la structure des droits de l'homme, sur la manière dont on les interprète, lorsqu'on les met en situation historique, lorsqu'on contextualise les argumentations, il est bien évident que les droits de l'homme donnent naissance à une inévitable casuistique. Moi, je n'ai rien contre la casuistique, parce que la casuistique, c'est là où on voit comment les argumentations se limitent, comment les argumentations rencontrent leur impensé et butent sur la réalité. Alors, proposer les droits de l'homme ainsi, bien entendu, je n'ai rien contre, mais il faut aussi voir qu'il y a plusieurs manières de les interpréter, qu'il y a des débats, qu'il y a des dictions et des contradictions, et que ça a toujours été le cas dans l'histoire des droits eux-mêmes. Tout droit a été un droit qui émanait d'une instance qui s'imaginait et qui pensait ne pas avoir droit à une part A, qui a obtenu cette reconnaissance, alors qu'auparavant, ceux à qui s'adressaient pensaient qu'il ne s'agissait pas d'un droit et que c'était quelque chose d'illégitime. Qu'il y ait un accord universel sur des droits dont on pourrait faire l'histoire heureuse jusqu'aux droits sociaux aujourd'hui, c'est vrai. Mais l'idée d'une histoire heureuse des droits de l'homme, d'abord les droits politiques, puis les droits de liberté négative, les droits civils, la propriété, puis les droits politiques citoyens, puis les droits sociaux, puis les droits des différences et les droits liés à l'écologie, tout ça c'est beau, ça fait un catalogue qui s'organise, ça fait une histoire sainte des droits de l'homme, mais dans la réalité, ces droits sont toujours donc donnés dans des contextes agoniques où il faut discuter, où il faut trancher et où il y a des oppositions. Donc, il faudrait donc poser la question de manière spécifique, qu'est-ce que signifie le respect des droits de l'homme dans telle situation, compte tenu de la complexité de la situation qu'il faut éclairer. Je ne vous fais pas une réponse de jésuite, bien que j'ai appelé ici à la rescousse l'inévitable casuistique, Mais je crois que il y a qu'à voir comment les choses se passent. Tout le monde est d'accord, les États signent des chartes, ces chartes sont amplifiées et élargies. Eh bien, ça n'empêche pas le monde d'aller comme il va. Alors, effectivement, il faudrait vous montrer comment ces discours sont inégalement producteurs d'historicité et d'action, comment ils deviennent à un moment des discours de routine, discours rituels, et à quel moment ils ressurgissent avec une vitalité nouvelle pour prendre en charge, donc, dans la contradiction des instances qui avaient été refoulées, et qu'alors là, ils retrouvent leur nouvelle vie. Donc, je vous dis oui, mais sous réserve de présenter une conception dynamique, à la limite aporétique, des droits de l'homme.
Alors, peut-on concevoir un concept philosophique de la mondialisation de la culture qui soit autre que sa marchandisation? En d'autres termes, ouais, peut-on concevoir une globalisation où la culture prenne le pas sur l'économie? Ne pensez-vous pas que si nous assistons aujourd'hui à la dictature de l'économie dans la mondialisation, c'est que le concept d'exception culturelle n'a pas pris toute sa dimension et toute sa mesure. Alors, que pensez-vous qu'on puisse mettre en œuvre pour que ce concept d'exception culturelle se popularise et se démocratise?
Bon, c'est une question immense, hein. Je ne sais pas si je vais vous répondre de manière satisfaisante. Sur la marchandisation, effectivement, c'est un problème réel. C'est une formule, un concept que je n'ai pas développé, que je n'ai même pas utilisé, je crois, dans l'exposé oral. Et vous avez raison de le rappeler. Mais vous savez, je crois personnellement que, bien sûr, qu'il faudra bien que les cultures qui se veulent universelles s'interrogent sur la particularité de l'universel, sur la reconnaissance des différences. Mais là encore, la situation n'est pas simple. Au nom donc de la reconnaissance d'une spécificité culturelle, on peut développer des stratégies de repli communautaire où on défend contre une mondialisation qui liquide toutes les références des identités culturelles. Ces identités peuvent être elles aussi des identités agressives et capables d'exclure. Donc l'idée d'exception culturelle n'est pas plus innocente que l'idée de mauvais universel. Là, je crois qu'il faudrait montrer en quoi ces exceptions culturelles permettent la promotion de plus de liberté, de capacité de penser et de capacité d'agir pour les individus. Je me souviens d'un texte de Simone Veil dans l'expérience, un texte consacré à la liberté et conditions de l'oppression. Elle disait que finalement, et je crois que c'est plein de sagesse, que les régimes, les formes politiques, les institutions, les pratiques ont finalement qu'un seul test, par-delà les ismes différents dont on les affuble. Elle disait, Simone Veil, que ce qui est bon, c'est lorsque on permet à un plus grand nombre possible d'individus de penser vraiment et de penser en première personne, et de pouvoir avoir la capacité de penser pour avoir la capacité d'agir. Alors je vous réponds, de ce point de vue, les exceptions culturelles sont peut-être à se mesurer elles aussi sur la promotion de la capacité de penser qu'elles permettent. Donc je vous renvoie, non pas pour la nier, mais pour la dialectiser, à votre question.
Paul Nagel, est-ce que selon vous, la mondialisation ou la globalisation, peu importe, serait déjà ou pourrait devenir ou devrait devenir un nouveau paradigme au sens de Thomas Kuhn, et avec ce que ça suppose comme abandon de ce qui constitue actuellement les sciences normales, n'est-ce pas, à savoir un certain raffinement toujours dans le même marigot, hein. Un exemple très simple en matière économique, il n'y a pas un pays au monde, il n'y a pas une entreprise au monde qui essaie d'améliorer son sort en augmentant ses exportations, à ceci près que tout ce qui est exporté doit être importé quelque part, et aussi longtemps qu'on ne pourra pas faire de business avec les Martiens, il y a quand même un petit problème, hein. Merci.
Oui, c'est une question en débat, puisque j'ai hésité dans mon exposé à propos donc du terme de continuité et discontinuité. La continuité, c'est bien donc un système de production qui est en place depuis 3 siècles et qui reprend une logique d'expansion, d'extension et de densification intérieure qui pourrait peut-être le faire changer de nature qualitative. Est-ce qu'il a vraiment changé de nature qualitative ou est-ce qu'il a radicalisé ou poussé à l'extrême des structures qu'il contenait déjà ? C'est la question que moi je me suis posée, si vous voulez, peut-être un peu trop générale. Il y a bien deux risques qui sont là pour lorsqu'on veut tester le concept de mondialisation, c'est d'en faire un événement tellement radical qu'effectivement c'est une nouveauté absolue qui nie le passé et les continuités, ou au contraire de tellement l'enraciner dans la continuité que l'on manque les évidentes nouveautés et les évidentes discontinuités. Mais, est-ce que nous disposons aujourd'hui d'un appareil théorique, hein, je ne parle pas de métaphysique, je parle d'un appareil théorique qui permette de penser ces discontinuités et ces continuités de manière non enthousiaste, c'est-à-dire de manière épistémologiquement réfléchie. Bon, donc je ne réponds pas à votre question parce que je la fais mienne. Moi, j'ai tenté un petit quelque chose sur 2 ou 3 points. Je vous ai, par exemple, j'ai essayé de montrer que sur la question donc, de l'espace mondial déconnecté des États et à propos de la notion d'empire, il fallait être très prudent qu'on rentrait dans une période où des notions qu'on pensait avoir classées pourraient reprendre sous une forme modifiée, mais une certaine vie. Voilà, je l'ai fait à propos de la notion de semi-impérialisme, qui vaut ce qu'elle vaut. Enfin, je ne sais pas si vous êtes économiste, vous pouvez peut-être la juger mieux que moi, mais je ne peux pas aller plus loin.
Moi, j'ai un commentaire et une question. En premier lieu, le commentaire, c'est qu'on a perdu dans cette conférence un peu l'historique de la mondialisation. Parce qu'on peut retourner jusqu'à, je sais pas, les croisades, exemple, et protéger ou parler du religieux et de l'économie en même temps. Ça s'appelle une mondialisation du religieux, exemple. Et surtout, cette mondialisation ou globalisation, comme on veut l'appeler, ça s'est formé exactement avec le 15e siècle, avec la rationalisation de l'esprit occidental, et qui parlait de la liberté, la richesse et tout ça. Et ces concepts-là, on trouve jusqu'à maintenant dans cette globalisation ou mondialisation, mais qui sont plus dangereuses que le 15e siècle et plus graves, quoi. Et pour la question, est-ce que vous avez parlé dans cette conférence de plusieurs concepts ou façons de savoir, de comprendre la mondialisation. Est-ce que vous trouvez que cette raison occidentale, qui est la raison en première échelle, maintenant mondiale, elle est une raison dévastatrice quand elle va pour chercher autrui ou chercher sa connaissance. Elle essaye de le capter ou de le maîtriser. Et est-ce que vous trouvez que toutes ces rationalités ou toutes ces idées, ces concepts, ces idées pour comprendre la mondialisation, elles ne doivent pas essayer de critiquer cette raison et surtout sur le plan moral? Comment on peut regarder cette raison du dehors, comme parlait Michel Foucault, comme un occidental, exemple, il critiquait l'esprit chinois ou la pensée chinoise?
Oui. Vous posez la question plus globale donc, de la mondialisation comme réalisation donc, de la pensée ou de la raison occidentale comme raison totalitaire, dominatrice et au fond destructrice du monde dans lequel elle s'est étendue. Je ne sais pas s'il faut avoir donc, des discours si massifs. La raison occidentale elle-même se dédouble. Il y a bien eu l'utilisation donc, des connaissances investies dans des appareils de domination qui peut faire douter de la raison, et puis personne ne serait scientiste en ce sens. Mais néanmoins, la raison occidentale, c'est aussi peut-être aussi un autre nom pour la pensée. Alors la question que vous posez, c'est de savoir quel est le rapport de la pensée par rapport aux traditions dans lesquelles la pensée peut s'exercer, de la pluralité des traditions. Bon, ça, c'est une question véritable. Bon, il est probable que l'occidental doit pouvoir se voir dans les yeux de l'autre. Et par les yeux de l'autre, de ce point de vue, je crois que le respect de l'autre, ça consiste à se laisser voir par l'autre et non pas simplement à lui imposer son propre regard et rentrer dans des pratiques de ce type, alors qui peuvent peut-être amener à un élargissement de la pensée ou de la raison, à une critique de la raison plutôt qu'à une destruction de la raison. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, l'Occident et la raison. L'Occident aujourd'hui est confronté à une question simple. Quelle image va-t-il présenter de lui? Est-ce que c'est une image hégémonique de mise en ordre et qui risque d'être attentatoire à des libertés et à ruiner la capacité de penser et d'agir de beaucoup d'hommes et de multitudes d'hommes par diverses sortes de phénomènes négatifs, ou est-ce que l'Occident va présenter au monde le meilleur de sa face, celle qui a peut-être été, donc, même si elle a des limites et des critiques, celle qui s'est jouée autour donc, de ce qu'on a pu appeler la raison pratique, que pour ma part je ne rejette pas, c'est simplement de contextualiser et de penser de manière plus mobile. Donc il y a bien une responsabilité de l'Occident, mais je crois que la catégorie globale, l'Occident contre ce qui n'est pas lui, nous emmène à nous faire entrer dans une logique d'opposition, de guerre des civilisations, de clash des civilisations, pour reprendre le texte de Huntington, qui est peut-être une vue perspicace et qui fait fausse mesurer, mais dont il faut mesurer aussi toutes les conséquences, parce que le clash des civilisations, ça signifie la guerre, et il y a des formes de violence qui peuvent détruire les deux combattants.
Oui, pensez-vous que la recomposition territoriale qui s'opère en France depuis un certain nombre de décennies, notamment avec le développement de l'intercommunalité, la métropolisation et plus récemment la décentralisation, constitue une étape de la globalisation et donc de cette expression locale, française en tout cas, de cette mondialisation capitaliste?
Je pense que l'émergence de la région, des régions, des groupes de régions, des unités sub-étatiques et territoriales donc de notre ordre est certainement un effet ou une forme donc de la globalisation de l'espace qui oblige à une redéfinition, à une transformation donc de l'État territorial. Donc le problème est de voir comment ces pratiques vont promouvoir les activités, vont-elles les inégaliser, vont-elles donc aboutir à un développement encore plus inégal ou pas. Donc de ce point de vue, je crois que vous avez raison donc de poser cette question critique, mais dans le détail, je ne peux pas vraiment vous répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'émergence d'unités non étatiques, non territoriales, nationales, comme la région, font partie du phénomène de la globalisation qui a, non pas détruit, mais redimensionné, redéfini les fonctions de l'État et qui, par conséquent, laisse apparaître donc la construction possible de nouveaux espaces. Mais ces nouveaux espaces seront de toute manière soumis à deux impératifs systémiques. Ce seront des espaces pour la concurrence et dans la concurrence. Donc, ça pose la question donc des grandes firmes, de la localisation, de la puissance des firmes internationales ou éventuellement transnationales qui y seront présentes. Et ça pose aussi la question donc de l'appartenance de ces espaces à des zones d'influence ou à des basculements de zones d'influence. Je crois que de ce point de vue, on ne peut pas éviter la récurrence de ces deux points de vue sur les problèmes de régionalisation.
Cette globalisation qui a brusquement surgi et investi notre existence, est-elle un aboutissement normal, naturel, logique du capital, ou bien un concept mis au point par les capitalistes pour dominer le monde, une espèce de recolonisation des peuples dont certains se sont libérés au prix du sang? Ce nouvel impérialisme global qui pointe à l'horizon et qui va transformer les États en supplétifs locaux des firmes internationales, est-il vraiment devenu une fatalité et qu'il faut donc s'y préparer pour vivre un monde dramatiquement totalitaire? Merci.
Oui. C'est une question plus que pertinente. Je crois qu'aujourd'hui, les risques que vous évoquez sont présents. Mon exposé, d'une certaine manière, dans la présenter. Je crois qu'effectivement, si la mondialisation, on peut la présenter de deux manières, c'est effectivement une troisième phase dans le développement donc, du mode du capitalisme mondial, qui a toujours été mondial inégalement, sous des formes diverses. Il y en a une nouvelle. Il est bien évident que cette nouveauté dans la discontinuité, dans la continuité, peut être exploité ou utilisé pour, en quelque sorte, se présenter comme un destin, je l'ai dit aussi, qui décourage, qui impose la reconnaissance et qui, au fond, fait accepter au nom d'impératifs économiques que l'on peut toujours discuter, telle issue, on l'a vu, on le verra encore dans l'histoire sociale française et on le verra encore probablement encore plus au niveau international. Donc de ce point de vue, la mondialisation peut être à la fois un indicateur descriptif, peut être explicatif d'un changement de phase dans l'économie mondiale, mais elle est certainement un enjeu idéologique, elle a fonctionné comme un argument, un peu comme la volonté de Dieu dans la philosophie classique. Hein, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est la mondialisation qui l'a voulu, et bien entendu, si la mondialisation veut, il n'y a plus qu'à plier le genou et dire Amen. Donc, vos interrogations sont parfaitement légitimes, d'une certaine manière, je les partage.
Merci André Tozel.